Radio Prague, les informations.
Le parti Top 09 conditionne la signature d'un nouvel accord de coalition à l'adoption par la République tchèque du pacte fiscal européen. Certains prisonniers ont été libérés par erreur par l'amnistie partielle. Et puis en football, Tomáš Rosický retrouve la sélection tchèque. Le parti Top 09, le deuxième parti de la coalition gouvernementale, a fait savoir qu'il ne signerait pas le nouvel accord de coalition avec le parti civique démocrate et le parti LIDEM que si celui-ci contenait l'engagement de la République tchèque à rejoindre le pacte fiscal de l'Union européenne avant fin 2013. La République tchèque et le Royaume-Uni sont les deux seuls membres de l'UE à ne pas avoir signé le traité qui établit des limites strictes pour les déficits budgétaires des membres de la zone euro. Le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, a annoncé cette demande après avoir rencontré les chefs des autres partis ce mardi. Le Parti civique démocrate estime pour sa part qu'il n'y a pas de raison que Prague signe le pacte fiscal dans la mesure où le pays n'a pas adopté l'euro. En outre, les Tchèques devraient, selon lui, décider dans le cadre d'un référendum, dans la mesure où il s'agit d'une délégation de certains pouvoirs à Bruxelles. Près d'un mois après l'annonce d'une amnistie partielle par le président en fin de mandat Václav Klaus, il s'avère que des juges ont remis en liberté par erreur un certain nombre de prisonniers qui n'étaient pas concernés par la décision du chef de l'État. Selon le quotidien Mladá Frontadnes, ces erreurs ont pu être causées par la précipitation ou du fait des termes peu clairs de l'amnistie. Un magistrat pragois évoque également la possibilité de manquer d'informations. Un juge a connaissance de la peine d'un individu dans un cas précis, mais celui-ci peut avoir été jugé pour une autre affaire. Cette amnistie très controversée a permis la libération de plus de 6000 prisonniers et l'arrêt de certaines procédures judiciaire. Le parti de Miloš Zeman, Zemanovce, qui n'est pas représenté au Parlement, semble connaître un regain d'intérêt pour des demandes de cartes de membres suite au succès de son leader à l'élection présidentielle, une information du site novinky.cz. À l'heure actuelle, le parti compte plus de 2000 membres. L'usine tchèque de la co-entreprise TPCA associant le français PSA et le japonais Toyota a produit l'an dernier 215 000 véhicules. Un chiffre en baisse d'environ 20% comparé à 2011, a annoncé lundi son porte-parole. En 2013, nous nous attendons à une stagnation de la production ou à une légère baisse, a-t-il ajouté. Cette diminution de la production s'explique par le fait que, je cite, « le marché aujourd'hui est beaucoup plus difficile en Europe qu'il ne l'était il y a 2 ans, quand il était soutenu par des incitations gouvernementales, comme la prime à la casse, a récemment constaté à Paris Denis Martin, directeur industriel de PSA Peugeot Citroën. En football, le meneur de jeu tchèque Tomáš Rosický a été rappelé mardi en sélection pour le match amical contre la Turquie dans 8 jours, alors qu'il vient à peine de reprendre la compétition avec Arsenal. Rosický, 32 ans, s'était blessé au talon d'Achille lors du match du premier tour de l'Euro contre la Grèce en juin et n'a plus joué pour la République tchèque depuis, en proie cette saison à des problèmes au mollet. J'ai vu Tomáš en Coupe d'Angleterre ce week-end, il n'a rien perdu de ses qualités, a dit à la presse le sélectionneur Michal Bilek. Les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde opposeront la République tchèque au Danemark et à l'Arménie dans le groupe B, dont ils sont actuellement 3e avec 5 points à 5 longueurs du premier, l'Italie. On termine par un mot de météo. Mercredi, nous fêterons les Robin et les Erna. Le ciel sera couvert avec des éclaircies localisées. Les températures continuent de remonter après les journées glaciales de la semaine passée. Elles oscilleront entre 4 et 8 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, c'est la suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. 3 jours après la fin du vote, l'élection de Miloš Zeman, président de la République, reste au cœur de l'actualité. Une place importante lui sera donc une nouvelle fois réservée à travers notamment un entretien avec l'historien français spécialiste de l'Europe centrale, Alain Soubigou. Mais ce sera dans la seconde moitié de cette émission. Avant cela, nous nous intéresserons tout d'abord à la question de savoir dans quelle mesure cette arrivée prochaine de Miloš Zeman au château de Prague sera synonyme de changement dans la politique tchèque envers l'Union européenne. Et puis, visite ensuite, pour nous changer un peu les idées, au salon Godemaus, un forum d'orientation sur l'enseignement supérieur, un salon destiné aux lycées et aux lycéens et étudiants tchèques, avec pour ceci, pourquoi pas, la possibilité de chercher leur avenir en France. Très bonne écoute à toutes et à tous. Vainqueur de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, Miloš Zeman prendra ses fonctions le 8 mars prochain. Apportera-t-il un véritable changement dans la politique tchèque envers l'Union européenne ? Sa position eurofédérale implique un changement du ton vis-à-vis de l'Union européenne. En revanche, sur certains aspects des politiques européennes, Miloš Zeman rejoint les opinions de son prédécesseur, Václav Klaus. Plus de détails avec Lucie Draxelova.
Pendant la campagne électorale, Miloš Zeman a affiché son eurofédéralisme. En même temps, le désormais futur chef de l'État s'est rarement attardé sur ses opinions sur l'Union européenne et a consciencieusement évité d'approfondir les sujets qui auraient pu fâcher son électorat. Analyste et chercheur au Centre d'études des politiques européennes à Bruxelles, Aleš Chmelař répond aux questions liées dans ce domaine précis au nouveau président de la République tchèque, élu vendredi et samedi dernier avec près de 55% des voix. Miloš Zeman n'est pas une nouvelle figure sur la scène politique tchèque. Au contraire, il a pendant longtemps été le chef du Parti social-démocrate et, en tant que tel, Premier ministre de 1998 à 2002. Que nous apprennent ces actions politiques passées sur la pensée politique de Miloš Zeman ? Aleš Chmelař.
Tout d'abord, je pense qu'il faut mentionner que c'était sous le Premier ministre de Václav Klaus que la République tchèque a effectué l'application, qu'elle s'est portée candidate en fait à l'Union européenne, mais le gouvernement de Miloš Zeman a effectivement effectué beaucoup de pas importants et invisibles entre 1998 et 2002. Tout d'abord, c'était l'implémentation de l'acquis communautaire qui semble assez large. Et c'était aussi un des gouvernements les plus réformateurs de l'époque. Il a assaini des banques mal privatisées, il a préparé véritablement la République tchèque pour l'entrée dans l'Union européenne, même si c'était sous le gouvernement de son successeur Vladimir Špidla que le sommet en fait européen de l'accession sous la présidence danoise de l'époque de 2003 a été vraiment effectué. Mais c'est vrai que Miloš Zeman a fait un grand pas en fait vers l'Union européenne. Aujourd'hui, il se portait aussi pendant la campagne présidentielle en tant que candidat eurofédéraliste, si vous voulez. En réalité, ses opinions peuvent être un peu plus mitigées. Il est un grand critique aussi de la bureaucratie européenne, plutôt, on dirait, à cause de sa campagne qui visait aussi, disons, le corps un peu conservateur de gauche, ce qui est aussi un phénomène assez courant en Europe de l'Est, où vous avez véritablement des partis de gauche qui sont conservateurs sur beaucoup de sujets sociaux, et entre autres aussi sur l'Union européenne.
Présenté comme pro-européen, Miloš Zeman a été soutenu pendant sa campagne par le président sortant Václav Klaus, eurosceptique notoire. Élu président de la République, nos auditeurs sont certainement curieux de savoir sur quels aspects la vision de l'Union européenne de Miloš Zeman diffère de celle de Václav Klaus et quelles sont ses priorités en la matière.
Alors, il faut mentionner le fait qu'il y a vraiment une différence du on dirait paradigmatique entre Miloš Zeman et Václav Klaus, dans le sens où Miloš Zeman se présente vraiment comme un eurofédéraliste, et il faut avouer qu'il a une vision, disons, plus fédérale de l'Union européenne. Dans d'autres contextes, on peut plutôt en fait se pencher vers le fait que Václav Klaus, ou qu'il partage avec Václav Klaus beaucoup d'autres opinions, comme celui sur l'environnement, probablement sur les droits de femmes, et sur beaucoup de sujets progressistes que l'Union européenne prend en cœur. Mais en général, cette approche en fait envers l'élargissement, par exemple, envers en fait une ouverture, une politisation de l'Union européenne, une plus grande fédéralisation des politiques économiques. Dans ce sens, je pense qu'il y aura une vraie rupture. Dans d'autres cas, le Miloš Zeman est un cas assez spécifique. Il a une approche assez, disons, arrogante en fait de des relations avec d'autres politiciens. Il se peut que l'Union européenne va être un peu déçue de ce qui à quoi on s'attend en fait après la présidence de Klaus, mais en général, je pense que la vision, elle sera beaucoup plus positive et que les relations vont s'améliorer.
Avec l'élection de Miloš Zeman, on pourrait s'attendre à un changement de rhétorique sur le projet d'intégration européenne. En même temps, c'est le gouvernement qui décide des questions européennes et c'est le Premier ministre Petr Nečas qui représente le pays à Bruxelles. Dans ce sens, un changement de l'orientation générale de la politique tchèque reste peu probable.
Forum d'orientation sur l'enseignement supérieur destiné aux lycéens et étudiants tchèques, le salon Godemaus a ouvert ses portes ce mardi à Prague. Pendant 2 jours, les jeunes tchèques peuvent chercher leur avenir parmi les stands et pourquoi pas sur celui du Campus France, l'agence chargée de promouvoir l'enseignement supérieur français à l'étranger. Un reportage de Marion Dautry.
L'Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur, l'accueil et la mobilité internationale, autrement dit Campus France, dispose de 141 espaces et 39 antennes dispersées dans 110 pays, et parmi eux l'espace de République tchèque installé à Prague et à Brno. Chargé d'encourager la mobilité étudiante et d'orienter les Tchèques potentiellement intéressés à travers l'offre universitaire française, Campus France République Tchèque ne manque pas depuis plusieurs années de participer aux deux salons Godemaus qui se tiennent à Prague fin janvier et à Brno en novembre. Barbara Schilhan est responsable de Campus France à Prague et assurera la tenue du stand pendant les 2 jours du salon, événement majeur de l'année.
L'espace ici de Prague y participe, je crois, maintenant depuis 4 ou 5 ans. C'est l'une de nos actions majeures pendant l'année. Il y a d'abord Gaudamus à Brno et puis Prague. Vous dire l'impact que ça a, c'est un peu difficile, mais bon, on a toujours beaucoup de visiteurs et je pense qu'il faut être présent pendant cette action à Prague.
Avec 883 nouveaux étudiants pour l'année scolaire 2011-2012, la France est la deuxième destination favorite des étudiants tchèques après l'Allemagne. Marquant leur préférence pour les sciences humaines, ces jeunes tchèques vont ainsi chaque année grossir les rangs des universités, comme la Sorbonne, qui propose un pôle de recherche en langue slave et un bureau d'études tchèques, ou encore ceux des grandes écoles, comme Sciences Po, qui dispose à Dijon d'un campus centre et est européen. À l'inverse, les sciences dures ne font apparemment pas beaucoup rêver, malgré l'existence du double master Ingénierie de systèmes interactifs, électroniques et informatiques entre l'Université technique de Liberec et l'Université Paul Sabatier de Toulouse.
Alors selon les dernières statistiques, ce qui attire le plus, c'est les sciences humaines, sciences économiques et sociales ensuite, et droit et sciences politiques. Ce qui est vraiment à la traîne, c'est les études de sport, santé et les matières scientifiques.
De quoi justifier le travail de Campus France, qui ne s'occupe pas seulement de publicité, mais aussi de l'aide au départ, avec la gestion des bourses et l'orientation à travers les différents programmes d'échange, comme Erasmus et Copernic. Il existe également un certain nombre de possibilités spécifiques pour la République tchèque, telles que l'opération « Un an en France », ou les doubles masters franco-tchèques Brno Paris Tech, Plzeň ESIEE Paris, České Budějovice Paris Descartes et bien d'autres. En français ou en anglais, l'offre est foisonnante pour les francophiles qui peuvent essayer de s'y retrouver grâce au site internet de Campus France en République tchèque ou via les différentes interventions auxquelles participent Barbara Schilhan et ses collègues chaque année.
On essaie de faire de la pub de l'espace un peu partout, dans les facultés ou alors auprès des associations d'étudiants. Mais ensuite, mon collègue à Brno et moi-même, on participe à beaucoup d'actions dans les universités, les journées Erasmus, les Study Abroad Fair et ce genre de choses, donc c'est aussi une occasion pour nous voir.
Étudier en France, oui, et pourquoi pas même s'y installer. Si les étudiants tchèques sont de plus en plus nombreux chaque année à partir étudier en France, ils sont également de plus en plus nombreux à y vivre. En 2011, le ministère français des Affaires étrangères estimait à 35 000 le nombre de Tchèques résidant sur le territoire.
Vous le savez, on l'a dit, redit et répété, la première élection du président de la République tchèque au suffrage universel a vu l'ancien Premier ministre social-démocrate Miloš Zeman l'emporter assez largement sur son adversaire conservateur Karel Schwarzenberg. Peu après la publication des résultats samedi dernier, l'historien Alain Soubigou, spécialiste de l'Europe centrale et plus particulièrement de Tomáš Garrigue Masaryk, le premier président de la Tchécoslovaquie indépendante, a accordé un entretien à Pierre Maignan. Alain Soubigou est clair sur les déterminismes historiques de ce scrutin.
Panorama.
Panorama.
Pa. les deux candidats étaient deux poids lourds de la vie politique tchèque depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Disons-le aussi, même si après on pourra nuancer, que c'était deux candidats dignes. Je dirais au niveau attendu d'une grande démocratie mature, mûre, comme peut l'être la démocratie tchèque. Miloš Zeman, c'est d'abord au plan personnel, c'est quelqu'un de très, disons, matois, rusé, un renard de la politique. Hein. Ceux de vos auditeurs qui ont pu voir peut-être le film Občan Havel, Citoyen Havel, ont pu remarquer à quel point dans ses dialogues avec Václav Havel, le président Václav Havel, il était en mesure de faire prévaloir son point de vue à l'encontre de son adversaire de l'époque, à savoir Václav Klaus.
Alors, l'habileté de Miloš Zeman s'est exprimée dans cet entre-deux-tours. On l'a vu assez agressif contre Karel Schwarzenberg, ranimant un petit peu les blessures du passé, puisqu'il a attaqué son adversaire sur les décrets Beneš. Donc, on le rappelle, il s'agit des décrets qui ont expulsé les populations allemandes de Tchécoslovaquie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Karel Schwarzenberg qui a déclaré qu'il s'agirait aujourd'hui d'un crime de guerre susceptible d'être jugé à la Cour pénale internationale. Alors, qu'est-ce que révèle cette polémique sur le rapport des Tchèques à leur passé? Est-ce que vous pensez qu'elle a eu un impact auprès de l'opinion publique tchèque?
Alors, indubitablement, que Miloš Zeman jette des pots de bananes sous les pieds de son adversaire, c'est la logique démocratique. Que des seconds couteaux aux côtés de Miloš Zeman, et plus que des pots de bananes, jeter des boules puantes à l'encontre de Karel Schwarzenberg, ça fait partie malheureusement aussi de la compétition démocratique. Je crois que sur ces chapitres-là, notamment celui des décrets Beneš, Karel Schwarzenberg, peut-être au nom d'une conception de la vérité qui l'honore, s'est mis tout seul en difficulté. Le choix de mettre en cause la position juridique d'un président précédent, en l'occurrence Edouard Beneš, a été perçu par les électeurs tchèques comme assez maladroit. On ne fait pas une campagne en démolissant des prédécesseurs, hein, ou en mettant en cause des prédécesseurs. Je crois que Miloš Zeman devra aussi faire attention à cela lorsqu'il sera aux affaires au château. Le rapport à l'histoire, écoutez, je crois que cette élection a été plus qu'aucune autre, dans aucun autre pays d'Europe centrale et peut-être même d'Europe, saturé par les problèmes historiques. D'abord, il faut toujours se souvenir qu'il y a un syndrome Pompidou. Après un grand président, à l'échelle de De Gaulle, si vous voulez, il est très difficile d'exister politiquement pour le président suivant. Sur le champ politique tchèque, succéder très lointainement à Masaryk, succéder à Havel est forcément très difficile. Oui. Deuxième paramètre, le poids des épisodes historiques a beaucoup joué dans cette élection. C'est d'abord l'année 68, on a demandé aux candidats du premier tour, aux 9 candidats du premier tour, que faisaient-ils en 68, et ceux d'entre eux qui avaient éventuellement trempé dans le parti communiste, même brièvement, c'est le cas de Miloš Zeman, entre 1968 et 1970, risquaient d'être salis. On leur a demandé aussi ce qu'ils faisaient en 1989. On a demandé aussi, par exemple, à M. Schwarzenberg ce qu'il faisait avant 89. On lui a tenu comme un défaut le fait qu'il ne soit pas dans le pays avant 89, qui s'expliquait par la bonne raison qu'il était en exil pour des raisons politiques en Autriche. Un troisième paramètre historique qui a pesé sur cette élection, c'est, je dirais, l'effacement de la dissidence. La Charte 77 et les dissidents qui ont beaucoup pesé dans les années 90, à l'époque de Havel au château, et qui ont vu leur influence régresser, eh bien, au premier tour, leur influence a essayé de jouer à travers une pétition qui a été diffusée par des proches de l'ancien président Havel. Et on se rend compte qu'au deuxième tour, eh bien, le choix qu'ils ont fait du côté de Karel Schwarzenberg, eh bien, et des faits. Donc là, il y a un troisième paramètre historique qui joue, c'est, je crois, un effacement peut-être irréversible de l'ancienne dissidence dans le jeu. Il y a d'autres arguments historiques qui jouent dans cette élection. Miloš Zeman était un candidat socialiste ou social-démocrate, certes assez indépendant, très indépendant de la social-démocratie. La social-démocratie bénéficie d'une tradition historique authentique dans le pays, bien avant l'époque communiste, dans l'entre-deux-guerres, et puis même au-delà, dès la fin du XIXe siècle, pour la bonne raison que, avant de subir un communisme importé, la Bohème et Moravie, puis la Tchécoslovaquie et maintenant la République tchèque, a toujours compté une classe ouvrière importante, on disait autrefois un prolétariat, dans lequel s'est originé à trouver ses ressources la social-démocratie historique. Et même si Miloš Zeman ne coïncide pas tout à fait, il a d'ailleurs dû se débarrasser au premier tour du candidat officiel de Jerzy Pierre Junior, il peut se rattacher à cette longue tradition. De l'autre côté, Karl Schatzenberg est issu d'une très grande famille princière qui a été au service de l'Autriche puis Autriche-Hongrie au XIXe siècle. Et évidemment, ça lui donne un atout, c'est-à-dire une grande conscience historique du rôle de président. Mais inversement, on lui a reproché de représenter justement des intérêts, ce qui n'est peut-être pas tout à fait vrai, des intérêts pas foncièrement tchèques. Bon, j'ai l'impression que c'est une accusation assez injuste, mais elle a sans doute porté auprès des électeurs.
Est-ce que finalement cette élection n'a pas illustré cette fracture peut-être sociale, générationnelle, géographique entre des élites urbanisées, des jeunes anticommunistes de droite qui se réclament justement plutôt de l'affiliation de la dissidence et une partie de la population moins urbanisée, peut-être les classes plus populaires?
Oui, tout à fait. La carte électorale, on aura les détails d'ici peu, mais déjà au terme du premier tour, était assez nette. Hein. Miloš Zeman a puisé l'essentiel de ses électeurs dans les campagnes, dans les petites villes, et Karl Schatzenberg plutôt dans les grandes villes. D'autre part, vous le dites bien, il y a une césure par âge. Karl Schatzenberg, malgré son âge un petit peu plus avancé que celui de Miloš Zeman, je rappelle les âges, hein, 75 ans d'un côté, 68 ans de l'autre pour Miloš Zeman, Karl Schatzenberg a réussi à séduire dans les milieux jeunes. Alors, de droite, conservateur, oui, mais pas seulement. Hein. Il y a toute une série de milieux jeunes qui se sont retrouvés dans les idéaux de non-corruption, de la dissidence, qui ont pu voter du côté de Karl Schatzenberg aussi comme représentant, même si c'est pas complètement vrai, d'une politique non politique, comme disait Masaryk autrefois, hein, et comme elle avait repris d'ailleurs Havel, hein, une espèce d'outsider de la politique, ce qu'il n'est pas tout à fait non plus. Hein.
C'est la première élection présidentielle au suffrage universel direct. La République tchèque n'a pas forcément la culture politique de cette élection présidentielle directe. La culture politique d'élire une personnalité plutôt que des listes électorales. Quel bilan vous pouvez faire de cette première expérience?
Je crois que c'est un signe quand même de maturité de la démocratie tchèque de s'offrir le suffrage universel qui était censé mobiliser les électeurs. Cela dit, il faut reconnaître qu'avec 61% de participation au premier tour, 58% au deuxième tour, ce pari n'est pas complètement rempli. Massary disait « démocratie est discussée », la démocratie c'est la discussion. Il y a un travail pédagogique à élaborer par les hommes politiques de premier plan, et malgré leurs dissemblances, leurs différences, Miloš Zeman et Karl Schatzenberg ont bien animé le débat, et même s'il y a eu des ouvertures un peu instrumentalisées de l'histoire, il y a eu quand même un travail pour essayer de mobiliser les électeurs.
Quel bilan on peut tirer de la présidence de 10 ans de Václav Klaus? Est-ce qu'il s'est quand même inscrit finalement dans l'histoire longue des fonctions présidentielles de ce pays?
Alors, je suis très prudent pour évaluer l'apport historique de Václav Klaus. Hein. Comme historien, je n'ai pas encore eu accès aux archives. Il y a toute une série de prises de position dont on ne sait pas toujours les dessous. Hein. Il faut parfois un petit peu de temps pour bien comprendre le poids, la portée d'une présidence. Alors, le syndrome Pompidou, je crains, joue à plein dans le cas de Václav Klaus. Après Havel, c'est très difficile d'exister politiquement. Et donc, il y a un démarquage presque systématique à l'égard des prises de position de Václav Havel. Bon, il faut voir l'aspect systémique hein, des prises de position de Václav Klaus.
«
C'était l'historien français Alain Soubigou, spécialiste de l'Europe centrale et plus particulièrement, vous l'aurez compris, de la République tchèque. C'est avec lui que s'achève le bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention. Merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de nos programmes. Ahoy.